selon nos personnalités, mais elle nous donnera un air de famille, les traits familiers qui vont rappeler Jésus-Christ lui-même. Si Paul doit rappeler l'importance de cette même passion, cette unité de pensée, c'est que cette unité de pensée n'est pas facile à avoir et à garder. Au verset 3 et 4, Paul nous donne le cap. Jetez un coup d'œil sur le verset 3. Il le fait négativement d'abord et ensuite positivement. De manière négative, Paul dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. » Et positivement, Paul dit « Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Et ensuite, le verset 4 dit à peu près la même chose avec une nuance un peu différente. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. L'apôtre Paul est en train de nous dire que l'air de famille, le trait familial du chrétien, sa mentalité, est fondamentalement cette humilité. Les valeurs du chrétien, voilà. Ces valeurs, cette mentalité, c'est la mentalité de Jésus. Ce sont des valeurs radicales tournées vers le bien de notre prochain. Il s'agit d'un amour, d'une compassion qui met les besoins des autres, leurs besoins, tous leurs besoins, mais leurs besoins spirituels aussi, avant les nôtres. Ce sont des valeurs extrêmement attractives et bienfaisantes. Et des valeurs que nous ferions bien de poursuivre en 2013, ça peut être notre bonne résolution du nouvel an, grandir en humilité pour ressembler à Jésus-Christ. L'église de Philippe, à laquelle Paul a écrit cette lettre, est une église modèle à plein d'égards. Donc si on devait relire cet épître, on verrait qu'il n'y a pas vraiment de grands problèmes dans cette église. Il n'empêche, Paul sait qu'il a besoin de rappeler l'essentiel, les mêmes choses. Et si c'est vrai pour l'église de Philippe, cette église modèle à plein d'égards, c'est sûrement vrai pour l'église de la Garenne. Mais comment est-ce qu'on peut grandir dans cette humilité? Comment est-ce qu'on peut considérer les intérêts des autres comme étant plus importants que les nôtres? C'est quand même un peu dur, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on va faire ça demain matin, au bureau, avec nos collègues? Comment est-ce qu'on va faire ça cet après-midi, en famille, à la maison, en couple? Comment est-ce qu'on va faire ça à l'église, le dimanche, le jeudi soir, mais aussi dans toutes nos interactions dans la semaine? Alors, ce passage nous montre que, comment l'apôtre Paul est vraiment un chirurgien spirituel hors pair. Et son couteau de chirurgien s'attaque directement aux kystes spirituels qui posent problème. Car la rivalité et le désir d'une gloire sans valeur sont tous les deux des symptômes d'une mauvaise compréhension de l'évangile de la grâce. Ou peut-être une compréhension qui a besoin d'être renouvelée. Ramener à l'essentiel, approfondi. Et on a tous besoin d'avoir une connaissance approfondie de l'Évangile. La rivalité et le désir d'une gloire sans valeur sont des symptômes qui indiquent que nous avons besoin de revenir à Jésus, à la croix, au pardon, à la justice que Dieu nous donne gratuitement en Jésus. Par un esprit de rivalité, on essaie de se persuader qu'on est meilleur que les autres. Le plus souvent, lorsqu'on est animé par cette attitude-là, on essaie d'abaisser notre rival, de penser ou même de dire de mal de lui. On essaie de se hisser au-dessus de lui. En le rabaissant, on le fait parfois juste en nos pensées. On prend conscience de cette attitude en nous, quand cela nous énerve, lorsque quelqu'un d'autre prend de l'importance aux yeux des autres, ou quand quelqu'un fait quelque chose de bien qui attire l'approbation des autres, on devient amer, on devient un peu critique. et notre joie, notre contentement simple en Jésus-Christ vole en éclats. Qui est à l'abri de cette attitude-là? Qui n'a jamais connu de tels sentiments? Et ce désir d'une gloire sans valeur va de pair avec cet esprit de rivalité. On se livre à la rivalité malsaine parce qu'on cherche cette gloire sans valeur. Le désir d'une gloire sans valeur est sans doute le désir d'être bien vu, d'être bien considéré par les autres, d'avoir une bonne place. Et dans le fond, de dépendre dans notre foi intérieure de l'approbation des autres, de vivre pour soi, pour ça. Une telle soif nous conduit à nous comparer aux autres, parfois à nous mettre en avant, à chercher sans cesse d'être celui qui est en vue, apprécié, et aussi à rapasser tous ceux, à dénigrer les intérêts de tous ceux qui viennent nous voler la vedette. On peut le faire de multiples manières selon nos personnalités. On peut le faire de manière extravagante et bruyante si on est comme ça, mais aussi de manière timide, de manière discrète. Parfois, cette attitude s'affiche au grand jour. Parfois, c'est juste quelque chose qui est caché dans nos cœurs. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Philippe que la mentalité chrétienne, qui est foncièrement, humblement centrée sur le bien de ses frères et sœurs, est quand même possible. C'est dur, mais ce n'est pas inatteignable. Parce que cette mentalité découle de l'Évangile lui-même. C'est l'Évangile lui-même qui produit cette humilité. C'est le verset 1 qui nous le dit. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion dans de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion. Cette unité de pensée, ce désir de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes découle du fait que nous avons tout en Jésus-Christ. Et ce que nous avons en Jésus nous façonne au plus profond de nos cœurs. En Jésus, nous sommes pardonnés. Nos fautes d'hier, d'aujourd'hui et de demain sont déjà payées. La justice divine est déjà satisfaite si on a mis notre foi en Jésus. Nous n'avons plus rien à craindre, rien à prouver, rien à faire pour devenir plus acceptés, plus pardonnés que nous le sommes déjà. En Jésus, le Père nous a adoptés comme ses enfants. C'est un statut permanent. La preuve, c'est que l'Esprit a fait sa demeure en nous. On a cette communion de l'Esprit. C'est lui qui est le garant de ce nouveau statut, de notre nouvelle relation stable et permanente avec Dieu. Dieu nous connaît, nous sommes connus de lui. En Jésus, nous sommes plus aimés que nous ne pouvions jamais nous l'imaginer. Nous sommes les sujets de sa miséricorde. Nous avons l'approbation de Dieu. Il nous aime, il nous chérit, non pas en vertu de ce que nous aurions accompli nous-mêmes, ça serait une fierté mal placée. Mais simplement parce que nous sommes en Jésus. Nous sommes unis à Jésus. Et Jésus a toute l'approbation du Père. Et quand nous nous rappelons ces vérités-là, quand nous les méditons le matin, le soir, dans le métro peut-être, au volant de notre voiture, devant la glace de la salle de bain, quand nous invitons nos cœurs à croire ces choses, et parfois il faut vraiment inviter ou obliger nos cœurs à croire ces choses, parfois malgré eux, malgré les mensonges. Ben nous commençons à nous rendre compte que nous n'avons pas besoin de faire valoir nos droits ou à nous hisser au-dessus des autres, à chercher l'approbation des autres. Nous n'en avons tout simplement plus besoin parce que nous avons tout en Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de nous prouver ou d'être meilleurs que les autres parce qu'aux yeux de Dieu, nous avons déjà son approbation. En Jésus. Du coup, l'Évangile, la grâce, nous libère de vivre autrement, de vivre humblement. Est-ce que vous voyez comment le Saint-Esprit, par la bonne nouvelle de la grâce, nous apprend à vivre, non pas en nous comparant aux autres favorablement ou défavorablement, mais en cherchant l'intérêt de nos frères et sœurs. Si nous voulons poursuivre cette résolution fondamentale de ressembler à Jésus-Christ en 2013, à grandir comme lui dans l'humilité, en église, au travail, à la maison, nous avons besoin du carburant de l'Évangile, de cette grâce, de cette consolation qui est en Jésus-Christ, de cet amour qui est en lui, ce soulagement de l'amour, de la communion du Saint-Esprit. Il faut qu'on choisisse d'être fidèle dans la méditation de l'Évangile. On peut le faire seul à la maison, on peut lire la Bible à la maison, mais peut-être fondamentalement, on le fait ensemble en tant qu'Église. On le fait dimanche matin, on est en train de le faire. Peut-être une bonne résolution à prendre, c'est d'être fidèle à l'Église, à venir chaque semaine, de considérer ce moment comme le vrai repas de la semaine où Dieu nous nourrit par sa parole. Et je ne sais pas si vous ratez des repas. Moi, ça m'arrive assez rarement de rater un repas. On ne peut pas rater le repas de la parole dans la semaine. Alors, dans la deuxième partie de notre passage, donc, nous sommes à cette deuxième partie, l'exemple de Jésus-Christ. Paul, il veut nous exhorter à prendre modèle sur Jésus. Paul veut vraiment que nous soyons dénués d'égoïsme, de rivalité, d'antagonisme. Mais il sait qu'une longue liste de règles, ne faites pas ceci, faites ceci, ça ne va pas nous changer. Une telle liste de choses bonnes en elles-mêmes, sans le carburant de l'évangile de la grâce, ne servirait qu'à nous condamner et à nous décourager, et peut-être à nous emprisonner dans notre jalousie. Dans ce passage, Paul veut nous montrer comment Jésus, comment son exemple est le moteur de la vie chrétienne, le moteur qui nous donne envie de vivre autrement. Et Paul le fait en exposant toute la grandeur et toute la splendeur de Jésus-Christ, la beauté de Jésus. Paul veut montrer à nous, les citoyens du royaume céleste, le modèle par excellence. La mentalité, la perspective, la façon de penser de notre maître Jésus. Alors ce passage, c'est vrai, est vraiment riche en détails. C'est un passage vraiment profond. Je ne peux pas commenter tous les détails de ce passage. Je ne peux que vous encourager à le lire, à le méditer dans la semaine. Mais je veux relever quelques détails en commençant avec cette grande idée d'humble service. Les versets 5 à 7 se lisent ainsi. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il, Jésus, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. C'est parce que Jésus est Dieu, parce qu'il est l'égal du Père, parce qu'il est de condition divine, qui ne cherche pas à faire valoir tous les privilèges de son statut. Paul est en train de nous dire que notre Dieu, le Dieu créateur, est fondamentalement un Dieu serviteur. C'est étonnant que l'être le plus grand qui soit, le plus majestueux qui soit, celui qui est digne de toute notre adoration, est caractérisé au plus profond de lui-même par ce désir de service. Dieu cherche à servir. Il cherche l'intérêt des autres. C'est Jésus qui nous montre le Père. Il nous montre son attitude, sa mentalité. Notre Dieu est un Dieu serviteur. Il est comme ça. Et Jésus montre toute son attitude divine en devenant un serviteur. Alors nos traductions disent qu'il s'est dépouillé lui-même ou il s'est vidé de lui-même en prenant une condition de serviteur. Alors cela ne veut pas dire, comme certains ont prétendu, que Jésus s'est dépouillé ou s'est vidé de sa divinité. On voit dans les évangiles ces récits extraordinaires où Jésus a guéri des malades, où il ressuscite des morts. Il était Dieu lui-même, il ne s'est pas vidé de sa divinité. Mais cela veut dire qu'en prenant une nature humaine, Jésus a renoncé à tous ses privilèges céleste pour s'abaisser et pour nous servir. Il n'a pas échangé son statut divin pour être un statut de, pour un statut de serviteur, mais en tant que Dieu, tout en restant Dieu, il a pris la forme de notre serviteur ou même de notre esclave. Alors voilà une illustration assez banale. C'est un peu comme si le président de la République décidait de donner quelques jours de congé à ceux qui nettoient le palais de l'Élysée. Et c'est comme si le président a décidé lui-même de nettoyer les toilettes du palais. Alors cela ne mettrait pas en péril son statut de président, il serait toujours le président, il a un mandat. Mais il aurait tout simplement choisi de s'abaisser pour prendre la forme d'un serviteur, un humble serviteur, un serviteur de l'État. Alors nous serions très interpellés, très surpris par ce geste. L'Évangile est vraiment ahurissant. Il est vraiment radical. Dieu, notre Créateur, celui à qui nous devons toute adoration, devient notre serviteur, notre esclave. Peut-on réellement saisir l'énormité de la chose? C'est une preuve gigantesque de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est quelque chose qui devrait nous rendre humbles. Mais si la personne, le chrétien, au bénéfice de cet humble service, commençait à faire le contraire de ce que Jésus a fait en se mettant en avant, en se hissant au-dessus des autres, en se considérant supérieur aux autres, si quelqu'un faisait ça, ça serait une aberration. Ça serait bizarre. Ça serait comme s'il n'avait pas encore saisi l'énormité de ce que Jésus a fait pour lui. Nous avons lu le passage de Jean 13 tout à l'heure. C'est intéressant de mettre ces deux passages côte à côte, Philippiens 2 et Jean 13. Jésus nous montre son humilité. Il s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples. Il a fait ça pour nous donner un exemple. Lorsqu'on saisit l'exemple, l'ampleur de ce qu'il a fait, vous savez, la rivalité n'a plus de sens. Si ce n'est de devenir le serviteur le plus dévoué qui soit. Et dans Jean 13, Jésus nous dit que cela, c'est la voie du bonheur, du vrai bonheur. Alors Paul enchaîne dans ce chapitre en parlant de la croix pour nous montrer un autre aspect de l'attitude de Jésus, une attitude d'humble sacrifice. Verset 8, Jésus s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Lorsque Dieu prend la forme d'un serviteur, c'est pour nous servir de manière radicale. Le passage de Jean 13 que nous avons lu tout à l'heure est en effet une illustration de ce service à la croix Jésus s'est abaissé pour nous purifier de toutes nos fautes. Mais Paul parle ici du sacrifice de Jésus sur la croix pour nous montrer une autre attitude, un autre aspect de ce que Jésus a accompli. La croix nous montre comment vivre. Comment vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Bien sûr, il va de soi que nous ne pouvons pas porter nos fautes comme Jésus a porté nos fautes, comme il a expié nos fautes. Nous, on ne peut pas faire ça. Mais nous y voyons l'exemple qu'il faut suivre. L'exemple de celui qui s'est abaissé, qui s'est humilié pour notre bien, pour le bien d'autrui. Et l'humilité, l'humiliation de Jésus était vraiment immense. Vous savez que le symbole de la croix est quelque chose, c'est un symbole qui est partout. On peut penser à la croix qui est derrière et puis la croix qui est dans le logo de l'Église. Et c'est vrai qu'on le voit partout dans notre société. Et puis parfois, on oublie le vrai sens ou ce que c'est la croix. On l'a domestiquée un peu. Mais pour celui qui a vécu au premier siècle, la croix était un symbole de peur, d'effroi et aussi de honte. Cicéron, le grand orateur romain né en 106 avant Jésus-Christ, a dit en évoquant l'effroyable supplice de la crucifixion, donc je cite, que le nom même de croix soit écarté non seulement de la personne des citoyens romains, mais de la pensée, de leurs yeux, de leurs oreilles. Car pour de tels supplices, ce n'est pas seulement l'effet et l'exécution, c'est le caractère, l'attente, le nom seul qui sont indignes d'un citoyen romain et d'un homme libre. Et pourtant, Jésus, la deuxième personne de la Trinité, Dieu lui-même, s'est soumis à cette humiliation-là. Il a renoncé à ses droits, à ses privilèges, pour notre bien, pour notre salut, pour que nous puissions connaître Dieu et être connus de lui. Et Paul nous invite à avoir cette même attitude de service et de sacrifice. Lorsqu'on met les intérêts des autres avant les nôtres, lorsqu'on considère les autres comme supérieurs à nous-mêmes, nous sommes en train de mettre en pratique cette attitude d'humble sacrifice. Nous sommes en train de nous charger de notre croix. Alors, ce n'est pas l'écrasement de soi, ce n'est pas un déni de nos besoins personnels, ce n'est pas non plus un stoïcisme où on ne montre jamais nos vulnérabilités ou nos blessures, mais c'est un choix libre de chercher semaine après semaine, résolument, le bien de nos frères et sœurs, le bien de tout le monde autour de nous, nos collègues au bureau demain matin, nos conjoints, nos enfants, nos amis, co-voyageurs dans l'aéroport, même le vendeur au magasin. Et c'est un choix coûteux, n'est-ce pas? Dieu nous demande d'avoir une attitude de serviteur, même au travail, même au bureau, même parmi ceux qui veulent peut-être prendre notre place. C'est dur. Et personne ne dit le contraire. Mais c'est possible. Et c'est l'exemple de Jésus qui peut transformer l'attitude de nos cœurs. Lorsqu'on commence à saisir un tant soit peu l'ampleur de ce que Jésus a fait, la grandeur de son humilité, la générosité de son sacrifice, on ne peut que s'humilier devant lui. Et notre fierté, notre orgueil, notre égoïsme, notre désir d'être bien vu, d'être considéré des autres, ces choses-là sont exposées comme des folies. Étant au bénéfice du sacrifice d'un Dieu si humble, comment est-ce qu'on peut se livrer à la rivalité, à la concurrence jalouse et à l'égoïsme? T'en passe, je vais conclure. Et les derniers versets de ce passage forment en quelque sorte la conclusion que Dieu lui-même donne. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus s'est donné, Jésus s'est humilié pour notre bien, pour notre salut, et cela lui a coûté très cher. Mais Dieu ne l'a pas laissé là, à pourrir, dans la tombe. Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a élevé à sa droite dans sa gloire. L'homme l'a condamné à mort, mais Dieu l'a agréé. Il lui a donné toute son approbation. Et c'est vrai, le chemin de l'humilité pour le chrétien est très coûteux. Il est difficile, ce chemin. Et dans cette vie, on n'aura pas toujours une récompense. Certes, on va avoir un air de famille. On va ressembler à Jésus-Christ. Ça fait partie de notre adoration. On va être le parfum bienfaisant de Jésus-Christ dans la société. Mais il n'y aura pas forcément cette promotion au travail. On ne sera pas toujours reconnu. On ne va pas toujours expérimenter la reconnaissance des autres. Ils vont peut-être dire que nous sommes faibles. Mais ce n'est pas grave, car notre avenir est entre les mains du Seigneur. Et c'est son avis qui compte. Jésus a tracé devant nous le chemin que Dieu agrée, le chemin de l'humilité. Ce chemin du roi serviteur. Si nous avons de l'encouragement, de la consolation, de la communion, de la tendresse, de la miséricorde en Jésus, celui qui nous montre la gloire du Père. Adoptons la même perspective, la même façon de penser que Jésus. Mettons les intérêts des autres devant les nôtres, refusons la rivalité ou cette recherche de gloire sans valeur et trouvons notre approbation en Jésus, celui que le Père agréent pleinement. Voici, c'est tout un programme pour 2013. Aussi, c'est tout un programme pour la vie. On va demander à Dieu, dans la prière, de nous aider à fixer nos yeux sur Jésus. Prions. Merci, notre Père, pour cette parole, ce passage. Merci pour la beauté de Jésus. Merci pour ce que tu as fait en lui. Merci de ce que tu es un Dieu humble qui a cherché nos intérêts devant les tiens. Et Père, nous voulons te demander de nous aider cette année à trouver notre consolation en Jésus, à trouver notre amour en lui, notre approbation en lui, la miséricorde en lui. Puisse l'Évangile s'enraciner dans nos cœurs et nous transformer. Donne-nous de fixer nos yeux sur Jésus, de mettre notre espérance en lui, l'espérance de la gloire. Père, nous avons besoin de ton aide dans ce domaine. Tu vois combien c'est difficile de poursuivre l'humilité dans une société où chacun se met en avant, chacun cherche ses propres intérêts. Aide-nous à chercher les intérêts des autres devant les nôtres. Père, nous avons besoin de ton aide. Nous t'en supplions. Donne-nous le vouloir et le faire par ton Saint-Esprit. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, on va conclure notre temps ensemble.